pour aujourd'hui et en approfondissant un peu la thématique, je crois qu'effectivement le Jourdain en soi est une étape importante pour nous lorsqu'on se remémore ce qui a été accompli à ce moment-là de la vie d'Élisée, d'Élie et de la vie du peuple d'Israël. Alors si vous me permettez, maintenant qu'on a lu le passage, je vais simplement prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu as suscité pour nous. Ouvre notre entendement, ouvre nos pensées à ta parole, instruis-nous et permets-nous, Seigneur, d'être les serviteurs et les servantes que tu désires, que tu cherches, que tu appelles et que tu utilises. Et qu'en toute chose, que toute la gloire ne nous revienne pas à nous, mais qu'elle te revienne à toi et strictement qu'à toi, aujourd'hui, durant toute cette journée, dans les jours qui viennent et jusque dans l'éternité. Bénis-nous par ta présence et bénis-nous par ta sainte provision. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on va se promener dans différents endroits ce matin. Donc, si vous avez votre Bible, je vais tout de suite vous inviter à ouvrir dans Genèse au chapitre 13, du verset 10 et 11. Genèse 13, voilà, verset 10 et 11. C'est l'endroit où Lot et Abraham vont se séparer en arrivant à Canaan. Et Lot va choisir premièrement une partie du territoire, puis le restant va aller à Abraham. Et la Bible nous dit au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Voici ce que Lot a fait lorsque son oncle Abraham lui propose de diviser le territoire. Il demande à Lot, ben, choisis ce que tu voudras et moi je prendrai le reste. Et Lot va regarder et va être émerveillé par le côté fertile, verdoyant de la vallée du Jourdain, et lui va choisir cela. Et on pourrait se dire, mais Abraham a été bête de ne pas choisir en premier. Il avait un droit d'aînesse, il avait un droit de choisir, puisque c'est lui qui avait fait grâce à Lot et qui l'avait amené avec lui dans ce voyage. Donc on peut se dire, il aurait pu avoir une préséance au niveau du choix, mais non, il va laisser Lot choisir. Et Lot ne va y aller que par les yeux. Alors, on pourrait dire aussi qu'Abraham devait être déçu, triste, abattu par son choix. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Et la première chose qu'on doit voir ici, c'est que notre marche par la foi est une marche par indication spirituelle et non pas par la vue. Dans cette étape qu'aujourd'hui j'appelle une étape de maturation spirituelle, une étape où nous acquérons de la maturité spirituelle. Une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est que contrairement à Lot, on ne doit pas marcher par ce que nos yeux voient, mais on doit marcher par la foi. Donc, premier point aujourd'hui, marche par la foi et non par la vue. Lorsqu'on tourne maintenant dans Deutéronome au chapitre 3, Deutéronome chapitre 3, du verset 23 à 27, mais particulièrement à partir du verset 26. Deutéronome 3, 26. « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, il ne mit tout à point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. » Donne des ordres à Josué qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Dans la page juste à côté, Deutéronome 4, le verset 21 et 22, on nous dit « Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Ici, c'est ce discours ou cette conversation que Moïse a avec le peuple en lui rappelant qu'il est interdit pour Moïse de passer le Jourdain et de rentrer dans la terre promise. Donc on est ici à la fin du trajet de Moïse, où Moïse parle de cette fin du trajet. Et parfois on a des difficultés à accepter le trajet que Dieu nous donne, voire même la fin de ce trajet qui pourrait être la nôtre. Et ici, ce qu'on apprend, c'est l'acceptation de la volonté divine. Moïse va être amené à se soumettre, à accepter, à embrasser la volonté divine quant au parcours que Dieu a fixé pour lui. Et Dieu a établi que Moïse n'entrerait plus, n'entrerait pas dans la terre promise, dans le pays qui avait été donné aux Israélites. Donc, il allait rester de l'autre côté du Jourdain. Alors, le Jourdain représente parfois pour nous aussi des limites de territoire, des limites de parcours, des limites d'avancée. Et il nous faut accepter les limites que Dieu effectivement établit pour nous. De surcroît à cela, c'est aussi l'exécution. Le Jourdain représente aussi l'exécution du jugement de Dieu. Moïse ne rentre pas dans la terre promise parce qu'il a, je prends une gorgée, parce qu'il a été jugé. À un moment donné, Dieu lui dit de frapper sur le rocher. Il s'emporte, il frappe deux fois au lieu d'une fois. Et Moïse, qui était le symbole du leadership chrétien ou du symbole du leadership spirituel, celui qui était le père de la nation et qui amenait son peuple à suivre son exemple et à se soumettre à Dieu, il était intolérable que publiquement, face à tout le monde, Moïse s'emporte et se frustre et n'obéisse pas à la volonté de Dieu, n'obéisse pas aux directives de Dieu, et qu'il n'ait pas la maîtrise de lui-même. Alors, en tant que leader, nous devons aussi apprendre, dans le leadership que le Seigneur nous permet d'exercer, nous devons apprendre la maîtrise de soi. Les personnes qui disent « je ne suis pas capable de m'en contrôler, je m'emporte », tu dois prier là-dessus et tu dois laisser Dieu travailler là-dessus et tu dois faire les efforts pour te contenir, pour être capable de maintenir ton calme et ta sérénité. Le fait d'être colérique ne glorifie pas Dieu. Donc, dans le processus de maturation, dans le processus d'acquisition de cette maturité spirituelle, il y a non seulement l'acceptation de la volonté de Dieu, il y a aussi l'acceptation du jugement de Dieu, mais aussi la prise de maturité, la prise de maîtrise de soi. Un leader qui n'est pas capable de contrôler ses paroles, un leader qui n'est pas capable de contrôler ses gestes, un leader qui n'est pas capable de contrôler son humeur, est un leader qui s'en va vers un mur, qui va frapper un mur. Et l'exemple qu'il donne n'est pas un bon exemple à ses enfants spirituels ou à ses jeunes dans la foi qui progressent à sa suite. Nous devons être capables, lorsque nous acquérons de la maturité, plus nous vivons avec Dieu, nous devons être capables de ne plus avoir ces sautes d'humeur qui sont marques habituellement d'un manque de maturité ou d'un côté puéril chez le serviteur de Dieu. Deuxième, trois, plusieurs, passage suivant, Deutéronome 3 toujours, au verset... Non, on va aller plus loin plutôt, on va aller dans Josué 1, on va laisser Deutéronome, on va aller dans Josué 1, le passage va être plus clair là-bas, on s'excuse, Néma a voulu me protéger du facteur ce matin. Donc Josué 1, 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué 4, le verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Ici, on parle de la succession de Moïse. la succession qui s'appelle Josué. Et le Jourdain est effectivement cet endroit où une succession ou une transition se manifeste. Dans le passage de Deutéronome, qui est probablement intéressant malgré tout à lire, Deutéronome 3, c'est pas le bon verset que j'ai. Non, j'ai perdu le verset. Je le chercherai, je l'afficherai plus tard. On parle que Dieu va dire à Moïse de préparer son serviteur Josué pour lui succéder. Donc, dans le processus de maturation, dans le processus d'acquisition de maturité, il nous faut aussi préparer ceux qui viennent après nous. On ne peut pas se concentrer strictement sur notre propre personne, mais il nous faut avoir des gens qui vont nous succéder, qui vont poursuivre l'œuvre après nous. Donc, dans la maturité du service, dans la maturité spirituelle, nous devons comprendre que nous sommes aussi appelés à faire des disciples. Jésus va le dire dans Marc au chapitre 16, lorsqu'il va envoyer avec la grande commission ses disciples, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Nous ne sommes pas appelés à faire des croyants, nous ne sommes pas appelés à faire des chrétiens, nous sommes appelés à faire des disciples, des serviteurs. Donc nous-mêmes qui sommes disciples de Christ, nous devons aussi travailler à produire des disciples. La maturation, la maturité spirituelle fait en sorte que nous préparons aussi une prochaine génération. Josué 1, le verset 2. Josué va être appelé, on vient de le lire, Josué va être appelé à passer à une nouvelle étape avec le peuple. On passe du statut de pèlerin, comme j'ai déjà expliqué la semaine dernière, et on vient à un statut de conquérant. On a été pendant 40 ans un peuple qui se promenait d'un point à un autre, qui allait un peu à droite et à gauche, selon que Dieu guidait, selon la nuée et la colonne de feu. Mais là, on va passer à un nouveau stade, à une nouvelle étape. Donc, la maturité fait aussi que j'embrasse et que je m'adapte au changement de statut. Le peuple d'Israël, peuple nomade, peuple pèlerin, va devenir un peuple guerrier, un peuple conquérant et un peuple qui va s'établir d'un peuple qui a été esclave sans possession. Ils vont devenir un peuple nomade, toujours sans possession, sans territoire, et avec le temps, dans cette entrée dans la conquête, ils vont devenir un peuple conquérant, un peuple guerrier, un peuple vainqueur, et un peuple qui s'établit, qui s'affermit et qui devient possesseur d'un héritage. Donc, il nous faut, nous aussi, dans certaines phases de notre vie, accepter qu'il y a des changements, des transformations, et on doit embrasser ces changements et s'adapter aux changements. Je sais, le changement fait peur. Pourquoi? Parce qu'on quitte un statut qu'on maîtrisait relativement bien, auquel on s'était peut-être habitué, et là, du jour au lendemain, ou selon un processus déterminé par Dieu, on passe d'un statut, d'une habitude, à quelque chose qui n'est pas encore acquis, à quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé et pour lequel on va nous demander une certaine période de prise d'habitude, une certaine période d'adaptation. Mais être capable de s'adapter, être capable d'embrasser le changement est aussi une marque de maturité. Josué 1, 11, fait intéressant. Josué, au verset 10, va dire: Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Préparez des provisions. En 40 ans, ils ne se sont préparés des provisions que pour des espaces de 2 jours. En fait, en 40 ans, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, la manne tombe sur eux. À tous les jours, la manne tombe. Le vendredi, puisqu'on sait que le lendemain, c'est le sabbat et qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc le vendredi, il y a une double portion de manne qui tombe et ils ramassent non pas pour un jour, mais pour 2 jours. Mais pendant 40 ans, ils ont été rassasiés, nourris à satiété par une provision. Et là, pour la toute première fois, ils entendent leur leader leur dire, préparez-vous des provisions parce que vous passez dans le Jourdain. Ici, Josué est en train de dire, préparez-vous parce que non seulement votre statut va changer, mais votre mode d'opération va changer. Et on doit se préparer au changement. Il nous faut nous préparer à cette période de changement qui revient cycliquement dans notre vie. Et lorsqu'on a commencé cette histoire de pandémie, il y a environ 8 ou 9 semaines, peut-être même 10 maintenant, une des premières choses que je vous ai dit, c'est qu'il y aura un après à la pandémie. Il y aura un après à la crise de la COVID-19, mais on ne reviendra pas à ce qu'on était avant. Le monde aura changé et l'Église doit s'adapter à ce changement. L'Église doit s'adapter à cette nouvelle façon de faire, à cette nouvelle façon d'être. Et pour nous aujourd'hui, dans cette période de confinement qui, on l'espère, arrive graduellement vers une fin, on est dans cette période d'adaptation et on se prépare. Donc actuellement, on se nourrit beaucoup spirituellement. Actuellement, on se nourrit beaucoup dans les écritures, dans les études qu'on vous transmet. Et on reste sur des sujets qui sont quant au peaufinement du serviteur. Pourquoi? Parce que le jour où le confinement est levé, le jour où on peut se remettre en activité, nous voulons que vous et moi, que nous tous en tant qu'Église, ayons été fortifiés, ayons été préparés pour cette nouvelle étape dans laquelle on embarque. Donc si tu ne t'es pas encore préparé, si tu n'as pas encore commencé à préparer, oui, tu es probablement un peu en retard par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 8 ou 9 ou 10 semaines. Mais il est encore le temps pour toi de rattraper le temps et de préparer cette chance, préparer ta gibecière, préparer tes provisions, parce que lorsque la COVID sera levée ou lorsque le confinement sera levé, nous allons passer à un nouveau stade. Alors, la préparation du changement est aussi une marque de maturité. Il y a des gens qui attendent trop que le changement tombe sur eux et on dirait qu'à chaque fois ils sont pris au dépourvu. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par rapport à la situation de la COVID-19. Il savait. Dieu a donc préparé son peuple, tout comme Dieu t'a choisi pour aujourd'hui. Dieu m'a choisi pour aujourd'hui. Dieu a choisi notre génération d'Église avec un grand E. Pour cette époque-ci, s'il avait voulu qu'on vive au 17e siècle, il nous aurait créés au 17e siècle. S'il aurait voulu qu'on vive dans 3 ou 4 siècles qui pourraient venir après nous, si Dieu ne revient pas, ben il nous aurait créés pour cette époque-là. Dieu nous a créés pour cette époque-ci et il savait qu'à cette époque-ci, nous aurions la COVID-19 et la crise qui est actuellement la nôtre. Et Dieu n'est pas pris de court. Dieu n'est pas pris à défaut. Dieu était prêt à nous maintenant d'être prêts pour ce qui vient après. Josué au chapitre 3, on pourrait lire le chapitre au complet, mais c'est quoi? Le chapitre 3, c'est la traversée miraculeuse du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe? Josué dit aux sacrificateurs et aux Lévites de prendre l'arche et d'avancer. Et à l'instant où les pieds touchent à l'eau, le Jourdain se sépare. Est-ce que ça vous rappelle une histoire? Tout à fait. Celle du premier passage 40 ans plus tôt de la mer Rouge. Moïse, à cette époque-là, avait dit aux sacrificateurs, avancez et au moment où vous poserez le pied dans le Jourdain, ben, l'eau va se séparer. Effectivement, 40 ans plus tôt, 40 ans plus tard, il se passe exactement la même chose. La maturité, c'est aussi de permettre à la nouvelle génération de faire ses expériences. La nouvelle génération avait entendu parler de cette époque de la mer Rouge qui avait été traversée à sec. Mais cette nouvelle génération ne l'avait pas expérimenté. Alors lorsque je prépare une nouvelle génération, lorsque je prépare ceux qui me suivent, je permets aussi à ces plus jeunes, à ces plus néophytes, dirons-nous, de faire aussi des expériences marquantes avec le Seigneur. Donc je dois prier, je dois accepter, je dois favoriser que ceux qui me suivent fassent aussi leur expérience. Il y a des leaders qui veulent que tout passe par eux. Il y a des leaders qui veulent que toute l'expérience soit tout simplement une transmission de connaissances orales qui se transmettent de génération en génération, de bouche à oreille. Regarde-moi et puis tu sauras quoi faire. Mais à un moment donné, il est important que la jeune génération, que celle qui vient après, soit amenée elle aussi à connaître son Dieu pour une relation intime. Je dis parfois que lorsque j'ai quitté la France pour revenir au Québec, m'établir, à cette époque-là, je savais que Dieu m'appelait au ministère, je savais que Dieu était revenu me chercher après quelques années d'errance, Dieu était revenu me chercher et j'avais reconsacré ma vie à Dieu et mon désir à ce moment-là était de servir Dieu et j'aurais pu servir Dieu auprès de mon père. Puisque lorsqu'il était absent, je l'assistais et je le remplaçais pour des prédications ou autres, bien jeune, mais mon père me donnait l'expérience nécessaire dans le contexte d'une petite église à Narbonne, mais c'était de l'expérience acquise. Et j'aurais pu dire, ben, je reste là-bas et puis je continue. Mais j'avais ce besoin intérieur de me retrouver dans un endroit où j'allais servir Dieu, non pas parce que j'étais le fils de quelqu'un, mais parce que Dieu m'avait effectivement choisi et parce que Dieu m'avait effectivement appelé à le servir. C'était pas que j'avais besoin que les gens le sachent, mais j'avais besoin de cette expérience perso-personnelle de moi avec Dieu. Et nos jeunes générations ont aussi besoin de faire ces expériences tout simplement uniques et respectives et personnelles entre eux et Dieu. Et nous, en tant que leaders, et nous, en tant qu'aînés dans la foi, nous devons aussi permettre à ces jeunes gens de faire ces expériences et à ces jeunes générations de faire ces expériences par eux-mêmes. Josué 4, du verset 1 à 7, on va nous parler de la préparation d'un mémorial pour après la traversée. Lorsque le peuple est en train de traverser le Jourdain, Josué va dire à 12 hommes de prendre des pierres et de les sortir à l'extérieur et à l'endroit, et ça c'est les directives de Dieu, à l'endroit où ils vont passer leur première nuit après le Jourdain, ils vont établir un mémorial, ils vont établir un autel. Et l'Éternel dit à Josué, quand vos enfants vous demanderont, mais qu'est-ce que représente cet autel? Tu leur diras, c'est pour nous rappeler là où Dieu a séparé les eaux pour que nous traversions le Jourdain. Il est important de laisser un legs, un enseignement pour les générations futures. Je répète, il est important de laisser un enseignement pour les générations futures. Il est important d'instruire les générations futures. Voilà pourquoi dans une église, un ministère comme l'école du dimanche est important. Voilà pourquoi dans une église, un ministère comme le ministère auprès des jeunes est important parce que il est de notre devoir en tant que génération de confier, de prodiguer à la génération qui suit un enseignement. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils ont un rôle d'enseignement. Tu as un rôle en tant que maman d'enseignante auprès de ton enfant. Tu as un rôle d'enseignant si tu es papa auprès de tes enfants. Si tu es oncle, si tu es tout simplement un aîné dans la foi, tu as aussi un rôle d'enseignant auprès du cercle d'influence qui est le tien. Certains disent, mais moi, il n'y a personne qui me suit. C'est pas vrai. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui t'écoute, quelqu'un quelque part à qui tu transmets un savoir, à qui tu transmets des expériences passées. Alors, pour transmettre une expérience passée, il faut d'abord s'en rappeler, d'abord demander à Dieu qu'on n'oublie pas, et l'Alzheimer spirituel existe régulièrement. Donc, demandons à Dieu de nous rappeler des expériences qu'on a vécues afin d'être capable par la suite de le transmettre comme legs, aux générations futures. De surcroît à ce mémorial qui va se faire à l'extérieur du Jourdain, la Bible nous dit que aussi Josué va aller en plein cœur du Jourdain lorsque les eaux sont séparées et qu'il va faire de même un mémorial en plein cœur du Jourdain où il va établir cet autel qui par la suite va être recouvert, qu'on ne verra plus jamais. Et on pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Bien, ça sert à marquer un territoire. Ça sert à dire au Jourdain, tu n'as pas été capable de m'abattre. Et parfois, on a besoin de ce même type d'attitude lorsqu'on devient mature spirituellement. On a besoin de s'établir dans des endroits qui ont été arides, dans des endroits qui ont été difficiles, dans des endroits qui nous ont été contraires, et pour dire, je t'ai vaincu. Ici est l'endroit où je t'ai battu. Ici est l'endroit où j'ai vu la main de Dieu se révéler, où j'ai vu la main de Dieu prendre contrôle pour moi, pour ma situation. Et il est important d'avoir ces endroits où nous acquérons une autorité par rapport aux événements, par rapport aux circonstances, par rapport aux environnements. La prise de maturité n'est pas simplement un état d'esprit. La prise de maturité n'est pas strictement un apprentissage ou une prise de connaissance. La prise de maturité est aussi une prise d'autorité. Autorité, dans ce cas-ci, pour Josué, face à l'eau du Jourdain. Josué 22, on avance, je vois qu'il est déjà 9 h. Je prends un peu de temps ces jours-ci. Josué 22, le verset 25, un passage tout court que j'aurais pu prendre à d'autres endroits. On nous dit, l'Éternel mit le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Le Jourdain est aussi l'établissement des limites fixées par Dieu. Régulièrement, jusqu'à la conquête, le Jourdain était comme ce fil qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne devait pas franchir. On se rend compte que régulièrement, ils vont se pointer, le peuple d'Israël va se pointer jusqu'au Jourdain face à Jéricho, mais il semble qu'on ne peut pas le traverser. Et en fait, effectivement, on ne peut pas traverser le Jourdain. Il nous faut respecter, lorsque nous apprenons à être matures, lorsque nous acquérons la maturité, nous devons respecter les limites imposées par Dieu. Deux derniers passages. Le passage, je vais vous raconter l'histoire, dans 2 Rois au chapitre 5, pour ceux qui prennent des notes, 2 Rois chapitre 5, du verset 10 au verset 14. On nous parle de Naaman. Naaman, le général syrien qui est atteint de lèpre. On nous dit que, il est atteint de lèpre, il est élevé dans l'armée syrienne et qu'il a une petite esclave, une jeune esclave juive. Et cette jeune esclave va dire à sa maîtresse et à son maître, si mon maître allait jusqu'en Israël, il pourrait voir un des prophètes et ce prophète, qui est Élie, serait capable de le guérir. Donc Naaman va. En fait, c'est pas Élie, mais c'est Élisée. Naaman va jusqu'à Élisée et il reçoit comme instruction du serviteur d'Élisée, va-t'en au Jourdain et va te tremper 7 fois. Et Naaman est offusqué en disant, ben, les cours d'eau de Syrie, de Damas sont encore bien plus clairs que celles du Jourdain. Et pourquoi j'irais me tremper là-bas? Sans égard de la part du prophète. Moi, j'ai fait tout ce voyage et lui ne daigne même pas m'accueillir. Et son serviteur va lui dire, mais maître, si le serviteur de Dieu, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué, l'aurais-tu fait? Et il dit, bien sûr. Il dit, alors, mais pourquoi tu veux pas te tremper dans l'eau? Et ce faisant, il a raisonné son maître, il a raisonné Naaman, qui a accepté d'aller se tremper cette fois dans les eaux boueuses du Jourdain. Et après ces 7 fois, il est sorti avec une peau comme celle d'un bébé. Le Jourdain est aussi l'apprentissage d'un leadership humble et soumis. Un leadership humble et soumis. Parfois, le malheur de celui qui acquiert beaucoup d'expérience, c'est que la chose lui monte à la tête. Et il est parfois, il a l'impression qu'il est rendu dans une élite et que les autres sont tout simplement des subalternes et qu'il est l'élu de Dieu et que les autres n'ont rien à lui dire. Ici, Naaman, un a été appelé à s'abaisser dans son rang et à aller se baigner dans un cours d'eau qui n'était pas digne de lui. Deux, a accepté les sermons, les recommandations d'un subalterne pour l'œuvre qu'il devait accomplir. Et nous, en tant que leaders, lorsque nous prenons de la maturité, nous devons comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Alors, dans notre travail, dans notre service, en tant que qu'ouvrier pour Dieu et en tant que quelqu'un qui a pris une certaine dose de maturité, cette dose de maturité devrait venir avec une dose tout aussi égale d'humilité. La maturité va avec l'humilité. Je dirais que un leader qui est orgueilleux est probablement un leader qui manque de maturité. L'orgueil, l'emportement, l'élévation personnelle est plus la marque de quelqu'un qui manque de maturité que de quelqu'un qui a appris des expériences et dont les expériences ont forgé un caractère humble. Et le leadership aussi mature est un leadership qui reste ad vitam aeternam sous la soumission à Dieu. Donc, être un serviteur aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Dernier point, je ne pouvais pas parler du Jourdain sans parler, bien sûr, de cet endroit qui est un lieu de baptême. Et on va aller dans Matthieu au chapitre 3, le baptême de Jésus, un point important que j'aimerais faire ressortir aujourd'hui. Matthieu 3, le verset 3 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi, tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ici, Jésus vient se faire baptiser par Jean, et Jean lui dit, non, non, je sais qui tu es, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui répond, il est important que nous fassions tout ce qui est juste. Un serviteur qui prend de la maturité désire accomplir la pleine justice de Dieu, désire accomplir tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jésus aurait pu être flatté par ce que Jean disait. Jean était le grand prophète. Et en fait, la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de grand prophète comme lui, qu'il est le plus grand parmi les prophètes. Donc Jean aurait pu tout simplement être vraiment obnubilé par Jésus et dire non, non, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse que de te baptiser. Et Jésus aurait pu dire, ben Jean, il est normal, soumets-toi à moi, je suis plus grand que toi. Et effectivement, Jésus était plus grand que Jean. Mais Jésus va dire, et Jean va accepter, que toute justice doit être accompli. Le serviteur de Dieu pour le Jourdain, ça représente une acceptation d'accomplir la pleine justice de Dieu. Ce que je fais, ce n'est pas pour mon avantage. Ce que je fais, ce n'est pas pour ma propre personne. Ce que je fais, c'est que je veux que la justice, le plan juste de Dieu s'accomplisse. Alors voilà, c'était l'étape de maturation spirituelle. Une marche par la foi et non par la vue, une acceptation de la volonté divine, une préparation d'une succession, une embrassade et une adaptation face au changement de statut, une préparation continue du changement, une expérimentation ou la permission pour la nouvelle génération d'expérimenter, un legs d'un enseignement pour les générations futures, un respect des limites imposées par Dieu, un apprentissage du leadership humble et soumis, comme dans l'histoire de Naaman, et dans cette histoire du baptême de Jésus, un désir profond et immuable d'accomplir la pleine volonté, la pleine justice de Dieu. une mise en garde toutefois sur le Jourdain. Et ça, on le retrouve dans le passage initial où on nous dit au verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. On nous dit qu'il y a 50 fils de prophètes qui sont là, à distance, et qui vont voir Élie et Élisée traverser. Et par la suite, qui regarderont si Élisée va être capable de revenir de ce côté-ci du Jourdain. 50 badauds. Voyez, la maturité n'est pas une question de regarder. La maturité n'est pas une question de passivité. La prise de maturité demande des acteurs. Nous sommes appelés à être des acteurs dans ce processus de maturation et pas simplement des spectateurs. Tu peux être spectateur de ce que Dieu fait, mais ne pas être tributaire, de ne pas être récipiendaire et de ne pas être acteur dans ce processus de maturité. Alors je t'invite à ne pas regarder les autres qui grandissent spirituellement, mais toi-même à viser la croissance. Parce que sinon, tu pourrais être effectivement comme ces 50 fils de prophètes, ayant étudié à l'école biblique, ayant des connaissances liturgiques, théologiques ou autres, ayant déjà été utilisés à leur échelle par Dieu, mais qui regardent les choses passer devant eux, au lieu d'en être des acteurs. C'est le seul endroit dans tout ce périple où on nous dit qu'il y a des 50 personnes, où il y a un nombre de personnes qui sont là tout simplement en train de regarder. Donc je t'invite à ne pas être spectateur de ta croissance spirituelle, je t'invite à ne pas être spectateur de ta maturation spirituelle, mais d'être partie prenante, d'être un acteur actif dans cette prise de maturité. Alors laissez-moi prier pour vous afin de conclure et saluer les gens pour une dernière fois ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'aller de progrès en progrès, de stade en stade, de croissance en croissance. Si du moins nous te permettons, ô Dieu, de nous façonner, de nous garder malléables entre tes mains et d'accepter l'école à travers laquelle tu nous fais passer. Merci Seigneur parce que tu veux nous peaufiner, parce que tu veux nous améliorer. Et bien que nous sachions que le travail est encore grand, nous savons Seigneur que tout ce que tu fais est parfait. Alors Seigneur, je ne peux que prier pour moi, mais je souhaite vraiment, j'ai le désir que mes frères et sœurs aient cette même prière chacun et chacune pour soi. Seigneur, si tu veux me changer, si tu veux me transformer, j'accepte ta transformation. J'accepte que tu me prépares pour demain. J'accepte moi-même aussi, Seigneur, de me préparer pour ce que tu as en vue pour moi. Et je te dis merci, Seigneur, pour tes plans et tes projets, et que toute la gloire te revienne. Amen. Dans cette préparation pour l'avenir, j'aimerais simplement vous donner un petit exemple personnel. Je crois que depuis l'âge d'environ 8 ans, j'ai un gros désir pour la Chine. J'ai un gros fardeau pour la Chine. Je sais que je vais y aller un jour. Je sais que je vais aller prêcher là-bas un jour. Je ne suis pas en train de dire que je vais déménager en Chine. De ce que je sens, c'est que je vais faire des voyages et qu'un jour j'irai prêcher là-bas. Ne serait-ce qu'une seule fois, mais je vais prêcher là-bas. Et je me prépare depuis l'âge de 8 ans là-dessus. Je suis toujours en train d'étudier ce qui se passe en Chine, ce qui se fait en Chine. Je suis tout le temps en train d'étudier l'Église chrétienne en Chine. J'ai même pris, et je dois recommencer lorsque je vais en avoir le temps, j'ai vraiment le désir de prendre des cours de mandarin. J'ai pris une session avec un professeur qui venait directement de Beijing et j'espère pouvoir poursuivre. Mais je suis dans cette préparation. Je ne sais pas quand la Chine va arriver. Je ne sais pas quand les portes vont s'ouvrir. Mais je sais qu'un jour j'y vais et je me prépare constamment pour cela. Je me prépare constamment pour d'autres choses que Dieu a mis dans mon cœur, d'autres choses que le Seigneur m'a montré et je m'y prépare simplement. Alors je souhaite vraiment que tu rentres dans cette étape de maturation, dans cette étape de préparation pour l'avenir. Alors laissez-moi saluer juste quelques personnes ce matin. Il y en a deux en particulier que j'espère qui se sont jointes. Deux personnes qui se sont jointes à nous, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne le sais pas parce que je n'arrive pas à voir qui s'est connecté ici. Je vais remonter un peu plus haut. Je ne les vois pas. OK, mais je passe le message. Et si vous voulez, vous pourrez envoyer des vœux d'anniversaire à deux personnes en particulier qui célèbrent toutes deux aujourd'hui leur 64e anniversaire. Donc le frère Claude Bernard, qu'on connaît bien à l'église de Montréal, le frère Claude Bernard, donc c'est son anniversaire aujourd'hui, et le frère Gérard Tony Beauséjour de l'église de Sainte-Adèle. Je sais qu'il y a son épouse Denise qui est connectée. Lui, j'ai pas vu son nom apparaître, mais assurément, il est avec son épouse. Donc, frère Claude, Dieu te bénisse, joyeux anniversaire. Frère Gérard, Dieu vous bénisse, joyeux anniversaire à vous aussi. On prie que la grâce de Dieu vous soit accordée à tous deux. Et puis, si vous avez l'occasion, tous ceux qui ont entendu ces salutations et ces joyeux anniversaires, prenez le temps de chercher, à les contacter, à leur souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc, le frère Claude Bernard et le frère Gérard Tony Beauséjour, 64e anniversaire à tous les deux aujourd'hui. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain matin pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. Et puis, tel que je l'ai dit au tout début, ceux qui n'ont pas assisté à l'étude biblique hier soir, parce que vous étiez pris ou autre, je vous exhorte vraiment à prendre un temps pour aller visionner la vidéo d'hier soir. Je suis convaincu que vous en serez béni et vous en serez changé dans différents points de vue ou dans différentes visions. Donc, on vous invite à revoir la vidéo d'hier soir. Ça reste sur Facebook de l'Église ou sur ma page personnelle. Vous pouvez aussi le voir. Donc, sur ce, bonne fin de journée à tous, ou bonne journée à tous plutôt, et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, 8h30, pour une autre bénédiction matinale.